RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour Olivier, bonjour les GG, bonjour à tous. Bruno Retailleau sera le candidat des Républicains à la présidentielle. On s'en fout ou pas? Flora.
On s'en fout pas.
Zora.
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Sans trop de surprise, hein, les adhérents LR ont donc largement choisi de désigner directement le président du parti comme candidat pour 2027. C'était hier lors du vote des militants. Ils avaient le choix entre deux formes de primaire plus ou moins ouvertes. Hein, et c'est donc Bruno Retailleau qui l'a emporté avec près de 74% des voix. Charles Consigny, pourquoi tu ne t'en fous pas?
Je pense que Bruno Retailleau a une ligne qui plaît fortement aux adhérents de LR. Et on sait que les adhérents des partis sont souvent les plus radicaux. Ils sont plus radicaux que les sympathisants. Et donc, sa ligne radicale plaît. Mais je suis très frappé de voir, et j'ai l'impression que c'est la première fois quand même que c'est comme ça à ce point-là, à quel point les dirigeants maintenant des partis ou même les systèmes de désignation des partis n'aboutissent pas à désigner des candidats non contestés. C'est-à-dire que à LR, le président du parti se fait reconfirmer par les militants et il y a néanmoins 10 autres candidats putatifs qui sont dans le même parti ou juste à côté. De Barnier à Lisnard, en passant par Wauquiez, Xavier Bertrand, tout le monde est sur la ligne de départ. Au centre, à Renaissance, le jeune Attal est président du parti, il va annoncer bientôt sa candidature. Vous en avez néanmoins 10 autres qui se mettent sur la ligne de départ et qui appartiennent au même parti. Bah oui, Braun Pivet, qui laisse entendre qu'elle peut être candidate, Jean Castex, qui depuis la SNCF, voilà, bon. Et Darmanin Le Cornu, qui sont en embuscade, chacun avec un flingue sur
Barnier.
Tu remarqueras qu'au RN et chez la France Insoumise, il n'y a pas ce genre de
souci. Alors, au RN, c'est plus discipliné. Mais donc, je suis frappé de voir ça. Il y a des partis qui désignent leurs candidats.
Donc, un manque de leadership, en fait.
Ouais, il y a une espèce de. Le leadership s'émousse.
Zora. Retailleau, est-ce qu'il a une chance? C'est ça la question. Retailleau a sa chance pour 2027? C'est la vraie question.
C'est ceux qui ont une visibilité précise de ce qui va se passer en 2027 qu'ils se manifestent. Parce que, honnêtement, moi qui ai fait de la politique pendant très longtemps, qui suis quand même au chevet de ce pays et de son actualité, pour la première fois, honnêtement, je ne sais pas.
Tout est ouvert.
Je sais absolument pas ce qui va se passer. Ça dépendra du courage des Français, en fait. Tout va dépendre, est-ce que entre râler et faire, il va y avoir un pas qui va être franchi.
Pourquoi? C'est quoi le pas pour faire?
Est-ce qu'ils vont décider d'avoir un président courageux, inconnu, qu'ils n'ont jamais vu? Est-ce qu'ils vont reproduire le même système?
S'il est inconnu, on ne le connaît pas encore.
On, 6 mois avant, il peut émerger quelqu'un, j'en sais rien.
Habitant.
Non.
Consigny.
Alors là, je vais te dire, c'est la dernière de mes ambitions. La candidature de Bruno Retailleau, elle raconte quoi? Elle raconte que la droite, comme la gauche, sont dans un désert total depuis des
donc,
années.
Pas de pronostic. Retailleau, il a ses chances.
C'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de primaire, hein, parce que les primaires, ça aide pas le débat, et c'est bien que la présidentielle se lance. Moi, mon petit doigt me dit que c'est surtout une bonne nouvelle pour Édouard Philippe, qui va avoir Retailleau sur sa droite pour aller chercher à droite, Attal sur sa gauche pour aller chercher sur sa gauche, et ils feront tous deux des ministres dans son gouvernement.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu.
Nathalie Baye, les GG, la voix que vous entendez, hein, l'actrice aux 4 Césars, c'est donc éteinte samedi à l'âge de 77 ans. Évidemment, on ne s'en fout pas, mais est-ce que ça vous a touché ou pas, Charles?
Un peu quand même. Moi, j'aimais beaucoup Nathalie Baye, oui.
Zora.
Oui, bien sûr.
Laura.
Bien sûr.
Mais... Charles.
Non, je trouvais que c'était une très bonne actrice. Elle faisait partie de ces actrices qui changent beaucoup en fonction des rôles. Il y a certains acteurs qui sont toujours les mêmes selon les rôles, qui jouent éternellement le même rôle. Elle, quand elle joue dans Absolument Fabuleux, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film très bouffon et très drôle. Adaptation de la série anglaise. Elle n'est pas du tout la même que quand elle joue dans Le Petit Lieutenant. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, un film excellent.
Elle a eu le César d'ailleurs.
Sur la police judiciaire, etc. Où elle joue une commissaire de police. Elle changeait. C'était une vraie actrice et elle avait effectivement, je crois que c'est Libération qui a titré La Discrète, elle était discrète, elle la ramenait pas, donc elle avait beaucoup de chic. Zora.
Oui. En dehors de ces films, les films, moi j'ai vu dernièrement le film avec qui elle est avec sa fille, Laura Smet. J'ai hésité avant de regarder et je trouvais qu'elle formait un beau duo. C'était un très joli film. Oui, bah pour moi c'est toujours un monument qui s'en va parce que c'est un peu l'histoire entre guillemets des boomers parce que c'est ce que disent les jeunes. Ouais. Que nous on a une histoire avec le cinéma, on a une histoire avec la variété française et c'est vrai que de voir des grands acteurs qui ont bercé à la fois notre adolescence mais bien plus loin. Oui, ça, c'est toujours moi ça me fait toujours un pincement au cœur quand même. Je me dis que il y a des belles histoires qui s'en vont.
Laura. Bon, rien à ajouter à ce qui a été dit, si ce n'est qu'effectivement, quand des monuments pareils nous quittent, c'est une page de l'histoire qui se tourne, donc ça nous touche tous.
Moi, j'aimais beaucoup sa voix, je trouve qu'elle a une très très belle voix, Nathalie Baye.
Marie-Josée Pérec, vous savez, la triple championne olympique d'athlétisme, les GG, ne fait plus de vélo à Paris. C'est ce qu'elle a confié au journal Le Parisien. Elle a peur, en fait. Elle trouve génial qu'on puisse circuler sur toutes ces pistes cyclables, mais elle trouve qu'il y a trop d'accidents. Je n'ose plus faire du vélo à Paris, dit-elle. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
Moi, je m'en fous, ouais.
Zora?
Bon, je peux dire que je m'en fous pas pour raconter ce qu'est le vélo à Paris, parce qu'elle a pas tort.
Charles.
On s'en fout pas.
En fait, elle avait pas peur des pistes d'athlétisme, elle a peur des pistes cyclables.
Oh. Eh oui, c'est ça. Zora.
Oui, moi je fais du vélo, souvent. À Paris, j'y vais pas. D'abord, déjà en plus, en piéton à Paris, entre les voitures, les scooters, les vélos, maintenant faut regarder vraiment, se concentrer sur l'arrivée
un peu l'anarchie.
Voilà, c'est l'anarchie.
C'est peut-être c'est quand même le piéton qui est le plus en danger.
Oui. Non, mais moi, j'ai deux fois, j'ai failli avoir un accident en piéton avec des vélos parce que les vélos, ils tracent. Les vélos, par principe, ils sont sur une piste cyclable, donc sur un endroit qui leur est réservé, et donc ils oublient le reste, donc je la comprends.
D'accord.
Charles?
10 secondes.
Non, c'est je comprends pas parce que il faut voir ce que c'est qu'un vélo à Paris. C'est à peu près la psychologie d'un soldat de l'armée allemande en 40, un vélo à Paris. C'est-à-dire que l'autoritarisme avec lequel ils avancent, je vois pas ce qu'elle risque. C'est comme si elle était dans un régiment de la Wehrmacht.